Bonjour, Guylain Cambier, je suis vice-président de la région Hauts-de-France en charge du climat et de l'action prospective, bref, de préparer ce qui va arriver dans les années qui viennent.
Alors évidemment, beaucoup de gens se préoccupent du climat, des modifications, on va dire, subies, réelles ou imaginées, ou dans l'avenir, est-ce qu'elles seront pires, est-ce qu'elles seront régulées? C'est toute la question, hein, en fait.
Oh, mais la question ne se pose même plus. On sait que la région des Hauts-de-France va être une région fortement impactée par les modifications climatiques. On a un certain nombre de rapports qui vont dans ce sens et qui montrent que l'on soit en ville dans les Hauts-de-France ou qu'on soit dans les campagnes des Hauts-de-France, on va avoir non seulement des accidents climatiques avec des sécheresses, des canicules de plus en plus marquées, mais on a aussi tout un travail à faire sur le retrait-gonflement des argiles, parce qu'on va avoir une érosion du trait de côte, parce qu'on va avoir des phénomènes d'inondation à d'autres moments. Donc ces bouleversements climatiques sont bien à l'œuvre chez nous. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans la région des Hauts-de-France, eh bien, on n'est pas à l'abri de ces modifications.
Alors c'est vrai que pour beaucoup d'habitants de la région qui vont sur les côtes, on voit éventuellement des paysages qui se modifient légèrement. Ça va s'amplifier, ces phénomènes?
Alors, on a déjà en effet à l'œuvre et on le voit des modifications du trait de côte. On sait aussi que à d'autres endroits, on va avoir aussi un impact sur la biodiversité. On va avoir des arbres qui souffrent de la sécheresse. On est quand même sur la quatrième année de sécheresse dans les Hauts-de-France. Vous imaginez un peu le film avec Danny Boone, s'il pleuvait pas en passant le panneau, et ben voilà. Et pourtant, c'est bien le cas. On a moins de précipitations et moins régulières qu'auparavant. Et puis, ça veut dire que la faune souffre beaucoup aussi. La faune, qu'elle soit spécialisée ou même classique. On parle là aussi de l'effondrement de certaines espèces d'oiseaux qui sont communs, comme le moineau, par exemple, que tout le monde connaît et qui est en difficulté parce que l'environnement a changé, parce que le climat change.
Je me souviens d'un temps, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait des remembrements de surfaces agricoles, notamment la suppression des haies, tout ça. Il y a vraiment un changement considérable à réaliser, autrement, ça va devenir encore plus compliqué.
Je crois qu'il y a une prise de conscience de tout le monde, que ce soit les agriculteurs, comme les collectivités, les mairies, les intercommunalités, et puis les aménageurs, sur le fait que parfois on est allé trop loin et que, il faut maintenant réintroduire, vous parliez de remembrement, il faut réintroduire de la haie, pour diverses raisons, parce que c'est on va dire une protection contre l'érosion, parce que ça permet d'accueillir de la faune qui va se reproduire spécialement à cet endroit-là et qui va même bénéficier parfois directement à l'agriculteur, parce que, on parlait de sécheresse, eh bien ce sont des endroits qui vont être abrités des vents, qui vont donc permettre d'avoir de l'herbe plus haute et donc d'avoir une autre agriculture beaucoup plus résiliente.
Est-ce que donc les anciens qui avaient pensé hein, leur organisation agricole, enfin, leurs espaces plutôt de travail et de vie, hein, avaient déjà imaginé un équilibre nécessaire? Est-ce qu'on a dépassé des caps? Est-ce qu'on peut revenir en arrière?
Alors, il n'est pas question de jeter la pierre à quiconque, en fait, hein. C'est sûr qu'il y a eu une génération agricole qui a été poussée vers un modèle productiviste et intensif et qui a été poussé tant parce que c'était une question de confort pour eux, c'était logique, de gain de pouvoir d'achat également, et parce que tout le système bancaire, de formation, etc., les poussait dans ce sens-là. Et alors que les nouvelles générations d'agriculteurs que l'on rencontre travaillent déjà sur des façons différentes de travailler. On parle parfois de non-labour, on va parler de couverts végétaux, pardon, beaucoup plus résistants également. C'est-à-dire que les uns et les autres maintenant prennent conscience qu'ils peuvent non seulement encore une fois se faciliter le travail, mais éviter des crises agricoles comme ils ont pu connaître dans l'agriculture intensive.
Il y a eu dans ce travail d'organisation la SAFER, faire et défaire.
La SAFER a eu et a toujours son rôle parce que le souci aussi dont on se rend compte, c'est la concurrence maintenant entre l'artificialisation des sols et le maintien d'une activité agricole qui soit pérenne. Et on a, c'est vrai, par endroit, des difficultés pour les jeunes agriculteurs à s'installer, à trouver des terres parce que la raréfaction et parfois la spéculation fait que le prix des terres s'envole. Et lorsqu'on a des nouveaux agriculteurs, donc plus jeunes, justement, qui sont dans une autre dynamique, qui veulent s'installer, ils ont parfois tout simplement du mal à être aidé, à être épaulé pour monter un projet économiquement rentable.
Donc vous parliez tout à l'heure des modifications et qu'on peut s'attendre à des périodes de sécheresse. Est-ce que parallèlement à ça, on s'intéresse aussi à la variété des plants, des plantations, de ce qu'on peut maintenant mettre en place qui compenserait justement ce réchauffement qu'on constate réellement ?
Dans différents domaines, que ce soit au niveau agricole ou que ce soit au niveau de la forêt, par exemple, oui, il y a des adaptations, il y a de la recherche qui est réalisée et appliquée avec les agriculteurs, avec les forestiers pour faire évoluer les espèces ou les semences qu'ils mettent en place selon les endroits. Est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Probablement parce qu'on se rend compte que le réchauffement climatique est plus rapide que prévu et plus important que prévu. Je prends l'exemple des arbres. La migration des arbres qui se fait de manière naturelle n'arrive plus à suivre la montée du réchauffement climatique. Et donc on est obligé de faire de la migration assistée en allant chercher des espèces qui sont beaucoup plus méridionales, beaucoup plus au sud que ce qu'on pensait. On est en train de remplacer le chêne pédonculé par le chêne Cécile qui était un chêne de milieu de France. Et on se rend compte qu'en fait on est déjà en train d'aller chercher un chêne qui est en fait du midi pour qu'il puisse résister à ces périodes de sécheresse que nous traversons. Et c'est la même chose sur l'agriculture. Et on peut légitimement se poser des questions. Est-ce que on doit toujours utiliser des cultures qui demandent beaucoup d'eau alors que on n'a pas une alimentation en eau régulière sur l'ensemble de la région? Alors est-ce qu'il ne faut pas travailler, mais avec la chambre d'agriculture, avec les agriculteurs qui sont nos jardiniers du paysage, à trouver les solutions les plus pérennes possibles et surtout innovantes, parce que ça change beaucoup. On parle aussi d'agroforesterie, le fait de réintroduire l'arbre dans les champs, en discutant avec ceux qui expérimentent ce type de pratique. Alors c'est sûr que c'est une nouvelle façon de le voir, mais l'arbre a tout son rôle dans le champ et il va même redonner une plus-value à la production agricole.
Un champ, un olivier, on peut imaginer ça ?
Alors l'olivier, je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que je connais quelques exemples d'oliviers dans les Hauts-de-France qui produisent, eh oui, mais on va dire que c'est quand même pour l'instant encore plus l'exception, mais malgré tout, oui, on a déjà des essais, par exemple dans la Vénois, vous allez avoir des essais d'abricotiers et de vignes. J'étais il y a peu dans la Champagne des Hauts-de-France où on se rend compte que justement oui, on peut avoir un vin de plus en plus qualitatif parce que le climat change également et on va pouvoir peut-être trouver d'autres encore productions par chez nous, mais pas encore des orangers et des clémentiniers.
Alors Monsieur Cambier, donc c'est vrai qu'on imagine que la région s'est un peu dépeuplée en termes d'arbres. Il y a des grandes forêts qui restent, des forêts domaniales, etc. Pour autant, comme vous le disiez, un certain nombre de champs ou de bordures de champs ont perdu de leur végétation et de leurs arbres. Est-ce que les villes peuvent travailler aussi dans ce sens-là ? Comment on peut intégrer plus de végétation, sinon même d'arbres, dans les villes ? Et pourquoi le faire ?
Moi, je vous dirais, non seulement on peut, mais on doit réintégrer l'arbre en ville. Réintégrer l'arbre en ville, d'abord parce que l'arbre, il a une symbolique auquel on s'attache facilement. Il a une longévité qui dépasse l'échelle humaine. Et puis, il a des utilités très pratiques. Avec les canicules qu'on a pu subir, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des montées de température beaucoup plus importantes dans les villes. Et l'arbre, justement, va venir réguler ce qui se passe en ville et offrir des espèces d'îlots de fraîcheur à l'intérieur de ces espaces très artificialisés. Et puis, en même temps, il va abriter aussi en ville une faune, une flore différente dont a besoin la ville de manière générale. C'est-à-dire que l'arbre, il a toute sa place en ville. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes arbres qu'on va pouvoir trouver en pleine campagne, mais on a des espèces d'arbres locales, adapté, qu'on peut intégrer. Encore faut-il que lorsqu'on met en place ce plan arbre, on le fasse de façon à ce que ça bénéficie vraiment à l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut travailler avec les pépiniéristes. Un arbre, on ne décide pas du jour au lendemain de le créer. Hein. Ça s'élève, un arbre, etc. Ça se plante, ça sème, et puis ensuite, on va le transporter, le planter dans son endroit et son environnement adéquat. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des professionnels à côté pour que les arbres qu'on plante chez nous, ce soit des arbres qui correspondent non seulement au climat, au sol et aux besoins de la population et de l'endroit où on le met. Et puis, j'oublie pas, face à l'urgence, même s'il faut être honnête, ça ne remplira pas la totalité du rôle, la fonction de stockage carbone de l'arbre qui est importante.
Est-ce qu'il y a une filière pépiniériste qui va en région encore se développer ?
Eh bien, on travaille justement depuis un an avec ce plan arbre à structurer cette filière de pépiniéristes. Et on y arrive parce qu'on s'est adossé aussi au travail d'espaces naturels régionaux qui avait, dans le cadre de son opération Plantons le décor, déjà travaillé sur le fond et sur la longueur avec ses pépiniéristes. Mais ça veut dire que puisque nous avons lancé cette opération l'an passé, nous la voulons étendue à l'ensemble de la région Hauts-de-France, il faut qu'on puisse avoir sur l'ensemble du territoire des pépinières, on va dire judicieusement réparties, pour que tout le monde, partout où l'on soit sur la région, puisse avoir accès à cette offre d'arbres.
Donc cette offre, elle dure déjà depuis combien de temps et elle va se poursuivre jusque quand ?
En fait, ce plan arbre, il a été adopté en avril 2020. L'objectif, c'est sur 3 ans de planter 1 million d'arbres. Si on dépasse, c'est encore mieux. Si ça se poursuit plus longtemps, c'est encore mieux. Pour l'instant, ça se passe pas mal malgré la situation sanitaire. On a eu des collectivités, des particuliers, des entreprises qui nous ont sollicité, auxquelles nous avons pu répondre. Cette opération va continuer à se poursuivre là aussi par rapport au lycée de la région, parce que la région doit être aussi une région responsable et sur les espaces qui lui sont propres, elle aussi, elle doit planter, elle aussi, elle doit accompagner les espaces qui lui sont réservés. On essaye de travailler et on a signé une convention par exemple avec Voies Navigables de France, bientôt avec Espaces Publics Fonciers pour les friches, à travailler avec les grands opérateurs, avec les départements, parce que de ci, de là, tout espace que l'on peut planter, il faut le faire. Et ça, encore une fois, en respectant des espèces locales, mais en même temps, pour que les arbres qu'on plante, ce soit des arbres pérennes. L'idée, ce n'est pas de planter un arbre et de le couper dans 5 ans. Hein. Lorsqu'on dit, voilà, on va réinvestir les friches et on va planter sur les friches, c'est les endroits où il n'y aura pas d'autre solution qu'au réaménagement sur ces friches, ou pas d'autre solution à court terme. Dans ces cas-là, oui, on peut imaginer de travailler sur le fond. On s'était donné un chiffre d'1 million d'arbres parce que c'était à peu près le nombre de lycéens, puisque c'est une compétence région, les lycées, le nombre de lycéens qui passaient dans le cadre scolaire pendant 3 ans. Et donc, on se dit symboliquement, c'est bien que les jeunes qui sont justement préoccupés et à juste raison par l'évolution des climats, eh bien, ils en soient en même temps responsables de leurs arbres.
Par rapport aux villes, je suppose qu'elles ont évidemment aussi intérêt à occuper leurs espaces urbains, et notamment dans le cadre de restructuration, d'occupation de friches ex-industrielles. Est-ce qu'on peut imaginer des partenariats solides répartis dans tout le territoire des Hauts-de-France ?
Non seulement on peut l'imaginer, mais on le fait. Vous savez, un dispositif qui vous permet de bénéficier de 90% de subventions, c'est rare. Et donc, avec un tel montant, en s'adressant aux collectivités, aux villes, elles ont bien répondu, que ce soit des villes, voilà, des grosses villes, des villes très urbanisées, comme je disais tout à l'heure, ou des bourgs plus ruraux, plus éloignés, voire même des petits villages, on arrive à répondre à toutes sortes d'attentes. Donc, on travaille avec les villes, bien sûr.
Est-ce qu'on peut imaginer des forêts urbaines ?
Il y a des exemples. Je suis allé assister à une plantation il y a quelques semaines en métropole européenne de Lille sur une forêt urbaine. Alors, mais c'est un concept un peu particulier qui est testé. C'est une école japonaise en fait, hein, une école philosophique japonaise qui a poussé un petit peu ce concept. Qui apparemment réussit, permet de stocker beaucoup de carbone et permet aux arbres de profiter les uns des autres également. Alors après, il faut que dans les aménagements des villes, on ait des espaces qui le permettent. Ça veut dire que c'est du travail là quand même à long terme, parce que on va pas démolir un quartier complet pour le remplacer par une forêt, ou tout au moins pas en un claquement de doigts.
Est-ce qu'on a en région des spécialistes paysagistes, on va dire, un peu comme il y a au Japon, en Chine ou ailleurs?
Oui, là aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer justement des paysagistes des Hauts-de-France qui mettent leur savoir et leur savoir-faire au bénéfice des communes en particulier, mais des particuliers. Et ils ont d'ailleurs passé une très bonne année 2020, en partie grâce à l'opération Plan Arbre de la région, mais aussi parce que la situation fait que nos concitoyens sont de plus en plus orientés vers le végétal, vers le jardin, vers le bien vivre, et le végétal fait partie du bien vivre ou du mieux vivre, et donc se préoccupent beaucoup plus de leur jardin. Et donc on a en effet de belles expériences, que ce soit du côté d'Amiens en particulier, que je suis allé voir également, ou bientôt du côté de Lens.
Il y a une école d'architecture hein, dans cette ville, enfin on va dire dans cette agglomération. Est-ce que les nouveaux architectes vont être sensibilisés au problème? Est-ce qu'il y a des cours qui leur sont donnés justement de paysage urbain, comment on améliore les choses? Et peut-être aussi la créativité, est-ce qu'on pourrait les associer à des artistes qui ont une imagination, un imaginaire à partager?
Bon, alors là, clairement, vous me posez une colle, parce que c'est pas moi qui rédige le programme des écoles d'architecture, mais de manière générale, on voit quand même qu'il y a une tendance de fond chez les architectes à intégrer de plus en plus de matériaux biosourcés, de repenser le cadre du logement de manière différente. C'est-à-dire qu'auparavant, on concevait une maison par rapport à sa fonction, tandis que maintenant, on la conçoit par rapport à son besoin. Aux besoins exprimés de l'habitant. C'est-à-dire qu'il y a une phase de dialogue beaucoup plus importante. Avant, entre le porteur de projet, entre l'habitant et son architecte, auparavant, on lui proposait un produit tout fini, avec salon, salle à manger, cuisine, etc. Maintenant, on leur demande, voilà, de quoi vous avez besoin, comment est-ce que vous vivez, et après, on va dessiner votre maison. Ça veut dire que de ce fait-là, les gens, comme il y a une attente de plus en plus forte, on en parlait il y a quelques minutes sur une insertion dans l'environnement et un lien au végétal différent. On voit réapparaître en particulier beaucoup de travail sur les ossatures bois, sur les architectes bois, et sur les maisons à énergie positive qui se développent de plus en plus.
Est-ce que ces aménagements avec on va dire des arbres qui sont mis en place, des végétations, etc., sont des facteurs d'attractivité pour certaines villes?
Oui, parce que ça change aussi l'image de la ville. Dans la région des Hauts-de-France est une région dense, fortement peuplée. Vous avez des espaces qui étaient très industrialisés, donc avec des logements très standardisés, qui sont d'ailleurs des passoires thermiques souvent, et qui en même temps ont marqué. Alors parfois, en termes touristiques, par exemple, on va voir les corons voilà, du nord ou du bassin minier, parce qu'on l'identifie à quelque chose. Le fait d'être plus innovant parfois dans l'architecture, eh bien ça va permettre aussi de montrer une autre image de la ville, du village, du bourg, et donc une autre image des Hauts-de-France. Dans la région des Hauts-de-France, on a de très belles initiatives architecturales, et ça montre, ou ça constitue tout au moins une autre façon de montrer les Hauts-de-France, parce que la région des Hauts-de-France, elle innove en particulier dans ce domaine. Et donc touristiquement, en termes de valorisation du patrimoine, bien sûr que ça s'intègre bien et que ça se met en avant.
Voilà, Monsieur Cambier, peut-être on peut donner quelques points d'étape là de cette opération donc du plan Arbre en Haute-France et peut-être une considération générale sur l'évolution ou l'amélioration du cadre de vie en région.
On a tous intérêt à travailler à l'amélioration de notre cadre de vie. Vous savez, la période que nous traversons, assez pesante, fait qu'on a parfois envie de s'évader. Et pour s'évader, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Il suffit d'avoir un espace, soit complètement naturel, soit bien aménagé en respectant les équilibres, qui permettent à tout un chacun d'avoir à proximité quelque chose où il puisse s'épanouir. Le plan arbre, il y participe parce que, et donc il y a un nouvel appel à projet qui sort ici, enfin qui est sorti d'ailleurs en région, auquel tout le monde peut, on va dire, peut se retrouver parce que justement, on apporte tous notre petite pierre à l'édifice. Quand vous plantez votre arbre, vous y faites attention. Lorsque vous le faites planter par une école, eh bien, les enfants sont responsabilisés. Ils vont s'identifier à l'arbre. Lorsque dans des communes, vous allez avoir des plantations au moment des naissances, lorsque avec un agriculteur, vous allez planter une haie pour protéger de l'érosion et en même temps changer l'image complète, au lieu d'avoir des grandes plaines céréalières, eh bien, vous allez avoir la haie qui va protéger et qui va, par exemple, abriter des petites bêtes qui vont protéger de la jaunisse, de la betterave, par exemple. Vous voyez, donc il y a des solutions issues de la nature, il y en a un tas, et ça fait partie de nos pistes d'avenir.
Merci, Monsieur Gambier.
Merci à vous. Bonne journée.